Amis de YouTube, bonjour, merci d'être avec nous. Chaque jour, on met un extrait de cette revue de presse de la matinée tienne qui est en direct sur Twitch. Une des actus, je trouve, les plus intéressantes, et c'est le cas avec ce premier sujet, la France dans la guerre. On parle du conflit iranien, bien sûr. Amis de YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour à tous les amis de Twitch, parce que là, dans le chat Twitch, vous avez des bonjour YouTube, coucou YouTube. Donc amis de YouTube, n'hésitez pas à répondre à nos amis de Twitch. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, j'y connais rien, mais on m'a dit de dire ça. Mathieu m'a dit, Sam, il faut que tu dises aux gens sur YouTube de mettre des likes. Et attends, et aussi de faire des... C'est un nouveau truc sur YouTube. Des boosters, des boosts. Attends. Des boosts, on peut booster la vidéo maintenant. Donc n'hésitez pas à faire des likes, des boosts et dire bonjour à nos amis de Twitch, ils sont très contents. Allez, c'est parti, je redeviens sérieux. La France dans la guerre. Donc ça, c'est la une du Parisien ce matin. Je vous ai mis deux dossiers sur le sujet, un dans le Parisien, un dans l'Opinion. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée pour soutenir nos amis et alliés de la région attaquée par l'Iran. Stratégie qui se veut strictement défensive. C'est peut-être que je vous mette la scène, pardon. C'était mardi soir, ce discours du président Macron, et on l'a regardé en direct. Et puis, j'avais pas tellement insisté, moi, sur le fait que le président ait annoncé l'envoi du président Macron en Méditerranée, puisqu'en fait, on le savait déjà, c'est une info qui avait déjà fuité. Mais j'aurais peut-être dû insister un peu plus. Lisons cet article du Parisien pour commencer. Alors, il y a Nightwolf qui dit, le temps qu'il arrive, la guerre sera peut-être déjà finie. C'est pas impossible, puisque le Charles de Gaulle devrait mettre 7 à 8 jours, je crois, pour arriver sur zone, comme disent les militaires. Guerre en Iran, Emmanuel Macron a donc annoncé mardi soir le déploiement de renforts militaires dans le golfe arabo-persique et en Méditerranée orientale. Objectif, prévenir toute escalade. La France sur une ligne de crête. En fait, ce que nous disent les articles ce matin, j'ai dit l'envoi du président Macron en Méditerranée, pardon, je voulais dire l'envoi du porte-avions. Je sens que je manque encore de sommeil, moi. Les articles ce matin vous disent pas facile pour notre pays de prendre position, quoi. Sans paraître trop agressif, en parlant d'une position défensive, mais en étant quand même impliqué dans ce conflit, notamment par nos accords de défense, en n'étant pas derrière les États-Unis, mais en disant que le président Macron, je rappelle dans son allocution de mardi soir qu'on a écouté en direct, il dit il condamne ces attaques américaines et israéliennes décrétées hors de tout cadre de droit international. En même temps, dans la même phrase, il dit en général, les peuples ne pleurent pas leurs bourreaux, en parlant de la mort de Khamenei, le guide de la République islamique. Donc, position compliquée. C'est un peu ce que dit la presse ce matin. Cette guerre, la France n'en voulait pas. Jusqu'au bout, selon nos informations, Emmanuel Macron a plaidé pour un dialogue avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, promouvant la voie diplomatique et rejetant le recours à la force pour contraindre Téhéran à renoncer à son programme nucléaire. Seulement voilà, 4 jours après que les États-Unis et Israël ont décidé, sans l'en avertir, de bombarder le pays pour faire tomber le régime des Mollahs, le chef d'État français a été rattrapé par la déflagration. Des négociations étaient en cours dessus, MNG tout à fait, oui. Mercredi, un missile balistique iranien a même été intercepté par l'OTAN alors qu'il se dirigeait vers la Turquie. Prise au piège, quelques 400 000 ressortissants paniques, ressortissants français, hein, donc des gens qui vivent dans la région ou des touristes, ou des gens même de passage, certains attendant leur évacuation qui a commencé mardi soir. 2 des 3 bases militaires aux Émirats Arabes Unis ont été endommagées par des drones iraniens. Le trafic commercial est paralysé dans le détroit d'Hormuz, contrôlé par les gardiens de la révolution iranienne, au risque de répercussions économiques majeures. On a beaucoup parlé des conséquences. 4000, non pas 400 000, non 400 000. Quelqu'un me dit c'est 400 000. Il y a le facteur qui dit non, c'est pas 400 000 français, c'est 4 000. Non, il y a 400 000 français dans la région. Non, 4 000, non. Le chiffre vous surprend, il y a 400 000 français dans la région. Pas en Iran, les gars, dans les pays du Golfe, dans 400 000. Touristes, gens qui vivent. Moi aussi, au début, ça m'avait surpris. Influenceurs aussi, Dubaï, tout ça. Donc, on a beaucoup parlé des conséquences économiques de ce conflit ces derniers jours. Le calme sur les marchés est très précaire. Les prix de l'énergie, notamment du gaz, sont en train d'augmenter considérablement, s'inquiète une source haut placée. Cette guerre n'est pas notre guerre, mais elle nous est imposée. Si nous n'avons pas choisi l'ennemi, lui nous a choisi, dit par exemple un député LR qui s'appelle Jean-Louis Thiérault, éphémère ministre délégué aux armées dans le gouvernement Barnier. Sur une ligne de crête, l'Élysée répète à l'envi sa posture stratégique, strictement défensive, hein, c'est ce que rappelait le président mardi soir, et dit travailler à une désescalade. Sans être critique, je ne suis pas sûr que la France soit en capacité, en mesure réellement, là, aujourd'hui, de peser sur une désescalade dans le conflit avec une opération qui a été décidée par les États-Unis et par Israël. Je ne crois pas que la France, et je pense que je ne me trompe pas beaucoup là-dessus, elle soit en capacité d'influer sur la politique de Trump et de Netanyahu. Dès lundi soir, en Conseil de défense, Macron a ordonné le déroutage du porte-avions Charles de Gaulle. Donc ces infos, effectivement, on les avait un peu quand mardi soir, le président en a parlé. Le porte-avions Charles de Gaulle interrompant sa mission dans le Grand Nord pour le réaffecter à la Méditerranée orientale. Mission dans le Grand Nord, c'est pas lié au Groenland d'ailleurs. L'envoi du Charles de Gaulle dans le Grand Nord, c'était pas justement lié à la crise du Groenland. Il y avait pas un truc comme ça, ou c'était un petit peu pour dire attention, nous aussi on est là. Vous me dites plutôt Russie, Samuel. Opération conjointe d'entraînement avec la Suède.
Ah c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a la Russie aussi.
Ok, très bien. Donc plutôt en lien
avec la Russie. Ok, très bien. Merci beaucoup.
La qualité de la communauté du chat quand même. Attendu sur place dans 7 à 10 jours, le Charles de Gaulle, il envoie un signal diplomatique majeur adressé à nos alliés, même comme à nos compétiteurs. On est là, on vous voit. et on est prêt à répliquer, décrypte un ancien haut gradé de la Marine nationale. Un message assumé auprès de notre journal par Catherine Vautrin, ministre des Armées. Plus on montre qu'on est fort, plus on se fait respecter. D'autres renforts sont donc en chemin. La frégate Languedoc, qui va se déployer en Méditerranée orientale, après qu'une base britannique a été visée à Chypre par un drone iranien tiré du Liban. La frégate Provence, qui patrouillait déjà dans la région, va elle se repositionner dans le golfe d'Oman. Alors le papier le dit pas, mais il y a un petit encadré là qui montre la composition type du groupe aéronaval autour de Charles de Gaulle, mais qui peut varier selon les missions. Le Charles de Gaulle, il est jamais tout seul. Hein. Le Charles de Gaulle, on en a qu'un porte-avions, tu vois. C'est à cause d'une blinde. Le président Macron a émis le souhait d'en construire un deuxième. Pourquoi la France n'a qu'un porte-avions à ce jour? C'est parce que les présidents précédents ont estimé que le coût est monstrueux. Régulièrement, du coup, on a non pas un porte-avions, mais zéro porte-avions. Parce qu'en fait, de temps en temps, les bâtiments sont immobilisés pour des révisions techniques assez lourdes. Hein. C'est pas une vidange, hein, tu vois. Et donc, je sais plus comment ça, c'est un nom très technique, c'est un nom très précis, pour lequel le bâtiment n'est pas utilisable. Et donc, d'avoir qu'un porte-avions, la problématique, c'est que quand il part en révision, on n'en a pas, quoi. Donc, l'idée d'en avoir deux, c'est d'avoir jamais de trous dans la raquette, sauf que ça coûte un fric monstrueux, quoi. Le carénage, ça s'appelle le carénage, exactement. La grosse révision, là. Faut pas oublier ton carré d'entretien, je peux te dire. Voilà, et dis tes cartes bleues. Hein. Et donc, la composition type d'un groupe aéronaval qui accompagne le Charles de Gaulle, c'est groupe aérien embarqué, les avions dessus, une frégate multimission, une frégate de défense aérienne, un bâtiment escorteur, un navire ravitailleur et un sous-marin nucléaire d'attaque. Je pense un peu pour aussi le protéger, le porte-avions, quoi. Donc, voilà pour le Charles de Gaulle. Si la France montre ainsi ses muscles, c'est aussi parce qu'elle a été touchée à deux reprises par des drones iraniens. Dimanche, deux d'entre eux ont provoqué un incendie en explosant dans un hangar sous la base navale d'Al Salam à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et mardi, selon les informations du Parisien, une autre explosion de drone a occasionné des dégâts matériels sur la base aérienne d'Al Dafra. Et c'est là que sont parqués nos rafales. De quoi envisager une riposte? Alors, est-ce que, suite à ces explosion de drone, est-ce que l'armée française va riposter et frapper l'Iran? A priori, non. Hein. Vous entrez dans la guerre avec des intentions qui visent à dissuader ces attaques. Si cette dissuasion ne suffit pas et que l'agresseur agresse, on peut franchir de nouveaux seuils. On vient à une source haut placée avant de tempérer, l'analyse fine de la situation n'ayant pas permis de démontrer que la France était ciblée à ce jour. Il n'est pas certain que ce soit des actes délibérés, ces explosions de drone, reconnaît Catherine Vautrin, la ministre de la Défense. Il n'en reste pas moins que la France accroît encore sa présence dans la région en déployant de nouveaux rafales et des systèmes de défense antiaérienne, lesquels ont été demandés officiellement par le Qatar et les Émirats en vertu des accords de défense qui les lient à ces pays. Où on s'inquiète de savoir, donc en France, si l'Iran est dans une confrontation rationnelle ou s'il va, à un moment donné, entrer dans un sentiment de survie qui le ferait basculer dans un conflit d'une toute autre nature. Un risque que le Hezbollah, en attaquant Israël qui menace d'intervenir au sol, fait courir à la région. L'instabilité du sud du Liban où 75 000 personnes ont dû fuir les hostilités depuis samedi menace de faire s'effondrer le pays. Alors que 700 soldats français participent à la mission de la FINUL, la force intérimaire de l'ONU, Paris a fait savoir à Netanyahou qu'il n'était pas question de mettre en jeu leur sécurité avec une intervention israélienne au sol. Et on va parler de Netanyahou tout à l'heure. Mais d'abord, on va lire un autre papier de l'opinion sur cette France aspirée par la guerre de l'Iran. Bill Orals rappelle que la France est le seul pays avec les États-Unis à avoir un porte-avions à propulsion nucléaire, sachant que les États-Unis en ont 11. C'est vrai ça? On remarque en termes de propulsion nucléaire, c'est vrai que peut-être qu'il y a aussi un aspect de maîtrise de cette énergie par la France. Je crois que tu as raison, mais je cherche quel autre pays pourrait avoir un porte-avions en propulsion nucléaire. Donc la Chine, ils sont en propulsion classique alors. Ils n'ont pas un porte-avions en propulsion nucléaire, la Chine? Alors, Linacos me dit faux. Les Chinois en ont un et on en a un deuxième en essai. En fait, j'aurais été surpris que la Chine n'en ait pas un. Depuis peu. Ok, merci. La qualité du chat ici, hein, qualité de la commu, quoi. Vous vous rendez compte? On parle bien de porte-avions. Hein. Lisons le dossier de l'opinion maintenant sur cette France aspirée par la guerre en Iran. Les frappes iraniennes contre des emprises ou des alliés de Paris au Moyen-Orient l'amènent à adopter, donc la France, une posture défensive active. Posture défensive active. Indispensable, mais à risque. La question qui débute l'article est intéressante. Les dirigeants iraniens connaissent-ils l'œuvre de Pablo Neruda? Vous vous rappelez qu'on a regardé le président Macron mardi soir en direct? On a vu plein de choses, on a vu un objet bizarre. Dans le fond, certains ont dit une lampe de mineur. Moi, j'étais pas sûr. Et il y avait des dossiers, notamment couverture rouge, et il y avait un livre aussi. Et puis quelqu'un dans le chat m'avait dit, je me rappelle, « Ah, mais qu'est-ce qui est écrit sur la tranche du livre? Je vois pas bien, ce serait intéressant. » J'ai zappé en mode « Ah, le chat avec vos questions, la mort moelle-neu, là. » Le titre du livre sur le bureau du président, eh ben, c'était une bonne question. C'est une bonne question et j'aurais dû creuser, vous voyez? La qualité de la communauté ici, quoi. Les dirigeants iraniens connaissent-ils l'œuvre de Pablo Neruda? Écrit l'opinion, poète, diplomate, homme politique, le Chilien a dénoncé à plusieurs reprises dans ses écrits et ses prises de parole la prédation et l'expansionnisme des États-Unis. Prix Nobel de littérature en 71, il est mort deux ans plus tard, quelques jours après le coup d'État mené par le général Augusto Pinochet avec le soutien de Washington. Mercredi soir, c'est un volume d'œuvres choisies Fantasy de Neruda, résidait sur la Terre, édition Gallimard, du géant des lettres qu'Emmanuel Macron a sciemment positionné dans le champ de la caméra de son allocution sur la situation au Moyen-Orient. Alors que l'Iran multiplie les frappes régionales en réaction au bombardement israélien et américain ayant tué le guide suprême Ramenei. Une vieille habitude, comme le dit Moulbit dans le chat, les mises en scène de Macron ne sont jamais anodines. Une vieille habitude puisque le président Macron avait déjà glissé un ou plusieurs livres sur son bureau lors d'autres prises de parole ou d'interview. Alors Sugar a vérifié, me dit que la Chine a zéro porte-avions en propulsion nucléaire. Alors le chat, mettez-vous d'accord, hein, sinon ça va chier. Paris ne se trouve pas du côté de l'impérialisme américain. Tel est le message implicite qu'a voulu faire passer le chef de l'État, avec ce livre donc, en marge de son propos. Il a malgré tout fustigé sans équivoque un régime iranien qu'il accuse d'être responsable de l'embrasement pour avoir développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, armées et financées des groupes terroristes et donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Non, on parle pas de porte-avions, Lazy Broccoli. On parle de porte-avions à propulsion nucléaire. Focus ! Et pas porte-aéronef, porte-avions. Faut vraiment être précis, les gars. Regarde, on dirait un travail de rapporteur, les gars. Donc, ils ont un porte-avions à propulsion nucléaire qui est en construction. Faites des efforts. Je sais que la mode n'est... et t'as pas bossé ces dossiers. Mais quand même, le message d'autant plus important, donc je vous le disais, hein, mardi soir, le président Macron, à la fois, il a dit que ses frappes étaient hors du droit international, en même temps, rappeler ce qu'il appelait la responsabilité de l'Iran dans ce conflit. Le message est d'autant plus important que la France, quand je dis l'Iran, c'est le régime, bien sûr, iranien, à son corps défendant, se trouve bel et bien aspirée par la guerre en cours au Moyen-Orient. Mise devant le fait accompli par Israël et les États-Unis, elle tente de trouver la bonne approche, j'ai envie de dire la bonne distance vis-à-vis des dirigeants de la République islamique. Sur le plan diplomatique, il est pas mal fait cet article. Emmanuel Macron a redit que les opérations militaires israélo-américaines ont été conduites en dehors du droit international, c'est ce que je disais à l'instant. Il a aussi rappelé que la position conjointe de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, le groupe E3 qui est engagé depuis 25 ans dans justement les négociations sur le programme nucléaire militaire iranien, était un arrêt au plus vite des frappes en considérant qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations. Sur le plan militaire, il avait défendu avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique dès dimanche le recours potentiel à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. En clair, Paris se réserve le droit de frapper le territoire iranien, mais hors de tout lien avec la démarche de changement de régime assumée par les États-Unis et Israël. Ah, c'est intéressant. Donc la France dit, on va peut-être taper, on tapera peut-être pour empêcher des frappes contre nos intérêts, mais ce n'est pas s'associer à Israël ou aux États-Unis dans cette démarche de changement de régime. L'heure est au déploiement de moyens supplémentaires, donc ça on l'a dit. Emmanuel Macron dépêche en Méditerranée orientale le porte-avions Charles de Gaulle. Ça nous a donné l'occasion d'un débat assez intéressant de savoir qui dans le monde avait des porte-avions à propulsion nucléaire. Donc maintenant on a bien compris qu'il n'y avait que les États-Unis et la France et les bâtiments qui l'accompagnent au sein d'un groupe aéronaval en Europe du Nord ces derniers jours. La frégate Languedoc est déjà arrivée à Chypre, dont le territoire a été ciblé par des drones iraniens. Des moyens de lutte anti-aérienne doivent également être acheminés dans la région. Pour la France, il s'agit d'honorer aussi ses partenariats stratégiques et des accords de défense avec les pays du Golfe et de la région. Celui avec Chypre, par exemple, signé en décembre. Au Moyen-Orient, ces accords sont plus anciens et dépendent des capacités sur place. Des rafales sont notamment intervenues aux Émirats Arabes Unis. Les forces françaises dans la région sont adaptables, assurent une posture dissuasive et offrent une capacité d'intervention rapide, insistent les militaires. Leur présence induit paradoxalement des vulnérabilités, merci Moulbit, qu'exploitent les Iraniens pour envoyer des messages aux Français afin qu'ils limitent leur engagement. Alors, est-ce que les forces de la France, les intérêts de la France peuvent être touchés dans la région ? Les possibilités de ciblage de la France dans la région sont nombreuses, sans parler des 400 000 ressortissants présents, hein, on en parlait. Les plus vulnérables se sont déjà vus offrir des possibilités de rapatriement. Ces bases aériennes aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie sont colocalisées avec certaines des États-Unis. Son emprise de Djibouti est pour sa part à portée de tir des Houthis armés par l'Iran et qui peut leur demander de faire monter la pression. Une frégate de défense aérienne, le Forbin, navigue cependant dans le secteur avec, dans le cadre de l'opération Aspid. Et puis, autre cible potentielle, alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont repartis de plus belle, les 700 soldats du contingent français, nous avons 700 soldats dans le contingent français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qu'on appelle la FINUL, c'est pas rien 700 soldats, forment une autre cible potentielle. Les milices chiites d'Irak, par des actes hostiles, peuvent également envoyer des messages musclés, même si Téhéran serait plus susceptible de les utiliser contre les États-Unis. S'y ajoute la menace d'attentats terroristes. On prononce Aspiedes. Ok, merci. S'y ajoute la menace d'attentat sur le terroriste sur le sol français, on en a parlé ces derniers jours. Dans l'histoire, l'Iran a déjà frappé par des actes terroristes, vous le savez, le sol français, même si c'était il y a longtemps. Conclusion de l'article, la guerre a en tout cas mis un terme au très relatif réchauffement des relations entre Paris et le régime islamique, avec la sortie récente de prison de Cécile Collère et Jacques Paris, toujours assignés à la résidence de l'ambassade par le passé, donc ça c'était assez récent. L'Iran a prouvé qu'il pouvait s'en prendre directement à la France, c'est ce que je vous disais. Il y a eu l'attentat de Drakkar en octobre 83 à Beyrouth, qui a tué 58 soldats français par une milice pro-iranienne. Et puis la vague d'attentats du milieu des années 80, pour les plus anciens, vous en souvenez peut-être, dans la capitale française. La France avait ainsi chèrement payé son refus de rembourser au Mollah le milliard de francs versé par le régime du Shah pour des parts dans une société spécialisée dans l'enrichissement d'uranium, de même que la livraison d'armes à l'envahisseur Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Amis de YouTube, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce petit coup de projecteur dans la revue de presse du matin, la matinée Étienne, qu'on voulait vous faire sur la France dans la guerre en Iran. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit coup de boost sur ce contenu, puisqu'on essaie de mettre de plus en plus en avant sur YouTube des petites parties de la revue de presse comme ça pour faire circuler l'info au mieux. Et bonne journée à tous. Et le chat Twitch vous met des bisous YouTube. C'est quoi des bisous YouTube? C'est des bisous... YouTube, vous êtes les meilleurs. Et puis, n'oubliez pas, il y aura la revue de presse samedi, des bonnes nouvelles, samedi fin de journée, avec l'annonce, pour commencer, de mon plus gros projet ever depuis 5-6 ans. Voilà, je ne dis rien.